Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, on va ouvrir notre Bible et j'aimerais vous entretenir sur une forme d'étude sur Noël. Je suis peut-être en avance, quoique nous sommes au mois de décembre et on voit déjà des guirlandes partout, alors bon, on est déjà dans l'ambiance. Et j'aimerais justement faire le lien entre cet événement, disons, du christianisme qui a été naturellement marqué par des faits religieux dans nos églises, et puis marqué cette naissance de Jésus, la position d'Israël par rapport à son Messie. Ça, c'est peut-être un petit peu moins connu. Et puis ce phénomène de toute l'histoire d'Israël, de toute l'histoire de Jésus, le Messie et le Sauveur pour nous, et tout l'aboutissement dans la fin des temps. Parce que ce n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas simplement quelque chose, un récit littéral, mais il y a véritablement, à travers les prophéties, à travers les Écritures, quelque chose d'une grande importance. Alors, nous allons passer de la naissance du Messie, du Sauveur. Nous parlerons également de la renaissance d'Israël et des hommes que nous sommes pour aboutir tout simplement à une reconnaissance, une renaissance, donc naissance, renaissance et reconnaissance. Vous savez qu'Israël n'a pas reconnu son Messie encore, hein. Et c'est vrai que quand on aborde ces sujets, on s'aperçoit qu'on est quand même assez troublé parce qu'on ne sait pas tout ça, où ça se situe. Il y a une chronologie particulière. Et j'aimerais, avec ce qui m'a été donné de comprendre et de partager avec vous, de faire véritablement une compréhension qui facilite toute cette histoire extraordinaire qui est consignée dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors, Noël, la renaissance d'Israël. Et nous savons qu'il y a eu des promesses par dizaines et par centaines, promesses divines du Messie Sauveur. Alors vous en connaissez le nom, c'est Israël, on en parle beaucoup actuellement. Le peuple élu. Et nous nous apercevons que c'est une histoire, en effet, que j'aimerais donner en bref, parce qu'autrement on va y passer jusqu'au 25 décembre, hein. D'abord, une des caractéristiques, peuple élu, peuple choisi, mais peuple indocile. Il est donné dans Néhémie au chapitre 9, ce terme, peuple de Dieu au cou roide. Parce que quand on connaît l'histoire d'Israël, ça s'est souvent mal passé. Et pourtant, un peuple averti, un peuple qui a la connaissance. Un peuple qui sait, parce qu'il est privilégié sur toutes les nations de la terre, de ce que Dieu lui a enseigné. Et naturellement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pour amener finalement Israël d'abord et le monde entier à se tourner vers Dieu en acceptant Jésus comme son sauveur personnel. Et tout cela, cette indocilité d'Israël a eu des conséquences. Comme nous aujourd'hui, il y a des conséquences lorsque l'on fait le mal. Lorsque l'on pêche, et il y a eu naturellement des châtiments de la part de Dieu pour Israël. Il y a eu des périodes d'exil terribles, et nous apercevons que aujourd'hui c'est la même chose. On connaît l'histoire, on connaît les circonstances de notre vie aujourd'hui, et on voit que c'est terrible. Alors, on va essayer de voir et de planifier tout ça. Dans Michée, au chapitre 5, je lis le texte parce qu'il va y avoir peut-être, passez-moi l'expression, c'est pas trop mon habitude, mais il va y avoir beaucoup de citations. C'est normal, parce que si on veut suivre, il faut que nous nourrissions notre compréhension avec ce que nous dit Dieu. Ce n'est pas ce que dit Alain, hein, ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc dans Michée, il est dit ceci, et ça s'adresse à Israël naturellement, c'est l'Ancien Testament. « Et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, que l'on peut appeler le roi des rois et le seigneur des seigneurs, on l'a chanté, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Jésus est Dieu. Jésus est un être incréé, puisque Dieu est incréé. Puisque Jésus a toujours existé, il a présidé à la création du monde. Ne l'oublions pas. Il dominera sur Israël. Alors, au départ, il faut faire entendre au peuple d'Israël eh bien, que Dieu lui donne un sauveur, qui sera son Messie attendu, après lequel tout Israël, pendant des siècles, va soupirer. Et nous nous apercevons que dans tout cela, eh bien, c'est en quelque sorte une très très longue histoire qui est faite de victoires, qui est faite de conquêtes, mais qui est faite de défaites, qui est faite de rejets, toutes sortes de choses semblables. Je prends un autre texte, un deuxième texte. Alors là, vous pouvez suivre avec moi, c'est Ésaïe chapitre 9. Et au verset que je vais vous livrer tout de suite, versets 5 et 6. Que nous dit cette parole ? Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né. Ça, c'est la naissance. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alors, il va avoir des noms divins. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lorsque nous regardons ce texte et que nous regardons la vie entière de Jésus dans le message de l'Évangile, on s'aperçoit que c'est bien ça, hein ? Tous les caractères et les qualités de Jésus, eh bien, nous sont présentés à travers eh bien, cette parole prophétique d'Isaïe. Alors, Néhémie nous dit une chose tout à fait particulière, j'ajoute. Il y a eu chez Israël, dans le peuple, la nation d'Israël, il y a eu une désobéissance viscérale, on pourrait dire. Chaque fois que Dieu disait, ça durait quelque temps, mais il y avait toujours, eh bien là, véritablement, eh bien, quelque chose de terrible. Ça, c'est la loi, parce que je vais vous parler de la grâce. Et je vais vous parler de la foi, qui scinde finalement, eh bien, d'une manière tout à fait évidente, l'Ancien Testament, le message de Dieu aux Juifs, et le message du Nouveau Testament qui s'adresse au monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, peu importe, juif ou non juif, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est une affirmation qui est important, que nous ne devons pas faire le mélange entre la loi et la foi. Il y a quelque chose qui est révélé. Donc, désobéissance fréquente chez Israël, et il nous est dit qu'ils eurent l'épaule rebelle. Vous savez les malheurs d'Israël depuis des millénaires. C'est pas venu pour rien. C'est parce que quand on voit tout son cheminement, on s'aperçoit que c'est un peuple qui savait, par rapport aux païens qui ne savaient pas. Un peuple qui sait est un peuple qui est responsable. Et nous voyons que responsabilité, peut-être châtiment et punition de Dieu, mais ce n'est pas pour ça que Dieu n'aime pas Israël. On le verra dans le détail. Dieu a un amour rempli de compassion pour son peuple qu'il a élu, qu'il a choisi. Il nous a dit qu'Israël a raidi le coup. Et il y a eu des rébellions permanentes. Et nous avons quelque chose qui nous est rapporté d'une manière magnifique et extraordinaire. C'est la parole de Jésus avec le fils prodigue. Heureux d'être heureux qui s'en va loin de la terre de sa naissance, loin de ses affections, son père entre autres, et puis sa famille, et qui va finalement vouloir être indépendant d'une autorité, et qui là va batifoler dans toutes sortes de choses, se livrer à des choses abominables, telles que l'idolâtrie pour Israël. Et nous voyons que nous allons garder à l'esprit l'histoire du fils prodigue tout le long de cette étude. Parce que c'est important, hein, c'est pas pour rien. Alors, il part, il désobéit, il trouve, croyant bénéficier du bonheur là dans ses choix, il va y retrouver le malheur. Mais néanmoins, il revient à la maison du père. C'est quelque chose, ça. Parce que moi, tout à l'heure, je vais vous dire en conclusion qu'Israël va se convertir au Messie. Et il revient. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'espère que je vous explique bien, parce que ce n'est pas tout simple, naturellement. Israël va avoir pour conséquence de ses désobéissances, ça va être une nation persécutée, parce que sa caractéristique, son caractère unique de recevoir la pensée de Dieu et le choix de Dieu, va véritablement le faire maudire par les nations. Il va le faire, la terre va être convoitée, le pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et dans l'Antiquité, Israël a connu l'esclavage. L'Égypte, Babylone. Plus de 2000 ans de tribulation que l'on appelle le temps des nations, depuis l'ascension de Jésus jusqu'à maintenant. Alors 2000 ans, et puis peut-être ajouter, parce que nous, on ne connaît pas la suite. On ne sait ni le jour, ni l'heure, naturellement. Le temps des nations, appelé également la diaspora mondiale. C'est un des peuples de la terre qui a été le plus répandu. En Orient, en Occident, dans le Nord, dans le Midi, partout, tout a été pénétré. Et Dieu pourtant les a accompagnés, en leur donnant une bénédiction particulière qui font que c'est un peuple unique, Israël. Je ne veux pas faire de politique, hein. Moi je ne suis pas ni pour les uns ni pour les autres, mais néanmoins il y a une trame à suivre qui va nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a matière à dire. Hein. Moi je ne m'inspire pas des journalismes, des médias et de tout ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a la parole de Dieu. Et je pense que ça va être plus clair pour chacun d'entre nous. Et puis ça s'est terminé il y a ça ne s'est pas terminé, mais ça continuait, d'une manière horrible, comme jamais la terre n'a connu de cruauté, à travers la Shoah, à travers l'antisémitisme. Dans le psaume 83, les nations se liguent contre Israël. Et il est dit, dans ce psaume, « Venez, exterminons Israël » du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'a jamais entendu autant de prolifération, d'exécration d'Israël, comme le texte le dit. Exterminons le nom d'Israël de la surface de la terre. Alors, il n'y a pas que ses ennemis. Mais il y a même quelquefois des gens qui sont partisans, sans être, mais qui, finalement, n'aiment pas Israël. Antisémitisme. Comme il y a l'islamophobie, hein, c'est pareil, hein, c'est dans l'autre sens. Et vous savez qu'ils sont deux. Hein. Il y a Israël et Ismaël. Et ils se haïssent. C'est quelque chose. Alors, il va y avoir naturellement, à un moment donné, dans certaines personnes, dans certaines périodes, excusez-moi, le rassemblement en terre d'Israël, un retour. Après l'Égypte, après Babylone, après la dernière guerre mondiale, après la Shoah, retour en Eretz. Eretz, ça veut dire terre. La terre. La terre de Dieu. La terre du peuple de Dieu. Alors, ça se dispute, hein, parce que le pain de terre, ça vaut cher en ce moment. Hein. Et il est arrosé avec le sang des uns et des autres. Hein. Vous le savez. Et c'est toujours des retours miraculeux. Souvenez-vous de l'Égypte quand ils sont sortis. La mer Rouge, la manne dans le désert. Souvenez-vous quand ils sont revenus, eh bien, de Babylone. La reconstruction, finalement, eh bien, de la nation. Le nouveau temple, etc., etc. Toutes sortes de choses. Ça a toujours été marqué par du miraculeux. Des choses terribles, mais aussi des choses surnaturelles. Nous, nous sommes des hommes et notre intelligence est limitée. Et c'est vrai qu'on s'inscrit dans un monde là où il y a tellement d'informations, qu'on ne sait plus tellement de quoi on est informé et de quoi il s'agit naturellement. Suivez la parole de Dieu, la chronologie de la parole de Dieu, et vous allez voir que tout est cohérent, parce que Dieu a un plan pour l'humanité. L'humanité perdue en Éden pour retrouver le paradis, non plus terrestre, mais le paradis céleste. Dans le livre du prophète Ézéchiel, parce que c'est là, surtout là où on a Ézéchiel, Michée, enfin quelques petits prophètes, mais qui sont des grands hommes, pour le dire. Dans Ézéchiel chapitre 39, c'est Dieu qui fait une promesse magnifique. « Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dit-il à son peuple, Dieu. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. » À chaque fois que Dieu a fait des choses extraordinaires, miraculeuses, surnaturelles, c'était pour dire « Mais je suis votre Dieu, je ne suis pas contre vous, je suis avec vous, et je vous enverrai votre Messie, que l'on appellera Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu avec nous. » Ils sauront que je suis l'Éternel, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, c'est toute l'histoire que je viens de raconter, et qui les rassemble aujourd'hui dans leur pays. C'est arrivé à plusieurs reprises, ce rassemblement inattendu, providentiel. Je voudrais vous dire que Israël a toujours été menacé, toujours en permanence. Et dans Jérémie, chapitre 30, passez-moi le tournage des pages, au chapitre 30, il est dit cette parole, au verset 3. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je mènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Eh oui, vous savez, le retour de l'Exode en 1945, vous savez, ce fameux Exodus, c'était quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose de magnétique. Les Juifs qui ont été épargnés, en se sauvant, de la Shoah, sont venus de tous les pays du monde. Et ils sont venus, ils ont constitué d'un pays qui avait été déshérité pendant des siècles et des siècles par ceux qui y habitaient, ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, que j'appellerais les Philistins dans le temps, eh bien, sont revenus, et d'un désert, ils en ont fait un jardin d'Éden. Lisez les progrès en l'espace de 70 ans, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il y a maintenant, de cette puissance, qu'elle soit nucléaire, c'est pas forcément un sous-produit de la civilisation, ça, hein, parce que quand on s'en sert pour d'autres fins que des fins bienfaisantes, ça, c'est quelque chose qui est terrible. Mais l'agriculture, les richesses du sol, toutes sortes de choses, mais c'était les promesses que Dieu avait données par la bouche de Moïse et de Josué en disant « Mais c'est un pays où coule le lait et le miel, une richesse extraordinaire. » Eh oui, il y a quelque chose qui a toujours caractérisé eh bien, Israël, c'est la haine d'Israël. Ah oui, la haine des Juifs. Parce que pour en arriver, comme le Troisième Reich a procédé pour éliminer des gens qui ne leur avaient rien fait, la cruauté que l'on voit aujourd'hui à Gaza, quand on met un bébé dans un four, hein, ça rappelle quand même quelques souvenirs. Hein. Quand on éventre des femmes, quand on demande aux femmes de tuer leurs enfants, et toutes sortes de choses. Ce sont des choses abominables que nous vivons aujourd'hui. On se dit, mais c'est pas possible que le monde soit comme ça. Et pourtant, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour, mais il n'y a rien de plus fort que la haine. L'amour, c'est la vie, et la haine, c'est la mort. Ah oui. Zacharie, reprendra la suite et il dira ceci dans le chapitre 37. En parlant des nations, tu diras « Je monterai contre un pays ouvert et fondrai sur des hommes tranquilles. J'irai faire du butin pour me livrer au pillage, parce qu'il y a des richesses dans beaucoup de pays, mais aussi en Israël, sur un peuple recueilli des nations. » C'est les ennemis d'Israël qui disent ça. Mais on s'est toujours aperçu qu'après tous les retours dans le pays donnés par Dieu à Israël, quand les Juifs sont venus, ils ont trouvé qu'un désert inexploitable. Et quand les Juifs se sont installés, ils l'ont fait refleurir. Le désert refleurira. Pour ceux qui ont été en Israël, moi j'y suis allé il y a une dizaine d'années avec ma femme, on se dit, mais c'est un pays d'avant-garde, à la fois dans les cultures, dans le Negev, c'était le désert de Sinaï, et de voir qu'ils ont fait pousser une forêt immense, avec des fruitiers, avec toutes sortes de choses. Il y a bien quelque chose hein, chez Israël. Je ne peux pas dire que les nations sont en dessous, non. Mais il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Toujours Zacharie, au chapitre 14. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants ont échappé de l'épée. Et combien de fois ils ont échappé de l'épée ? Celle de Pharaon, celle de Nebuchadnezzar, celle du temps des Maccabées, et celle également, eh bien là, du nazisme allemand. Ils auront été rassemblés d'entre les peuples sur les montagnes désertes. Et toi, Israël, tu en as fait un jardin d'Éden. Mais il y a toujours, devant ces calamités terribles, il y a des promesses qui viennent de Dieu pour Israël. J'ai dit que Dieu aime Israël. J'ai dit que, quelque part, eh bien, s'ils ont été désobéissants, s'ils se sont livrés à des abominations, eux aussi, parce qu'il faut penser, moi, ma conviction, c'est qu'Israël est un peuple comme les autres, mis à part ce que je viens de dire, hein, naturellement, hein, parce qu'il y a une marque dessus. Il y a un signe, pardon, la marque vient d'ailleurs. C'est autre chose, hein, il y a un signe. Et je crois qu'il y a toujours eu cette distinction où Dieu, pour récupérer le fils prodigue qu'est Israël, pour l'inviter et l'attendre pour qu'il revienne à la maison du Père, eh bien, il y a toujours eu des promesses de délivrance incessantes, de bénédiction et de prospérité. De même, nous dit Zacharie, que vous avez été en malédiction parmi les nations, Juda et Israël, je vous sauverai et vous serez en bénédiction au monde entier. On hait Israël, mais Dieu dit non. On ne vous aime pas parce que vous avez un signe sur vous. Parce que derrière, il y a Dieu et le monde n'aime pas Dieu. Et on s'aperçoit que derrière tout cela, eh bien, il y a véritablement un plan de Dieu qui, de siècle en siècle, est en train de dérouler une histoire formidable. C'est celle de notre salut. Et là, nous en arriverons à la renaissance politique d'Israël. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, il est dit cette parole, et c'est quand même important de faire cette référence, au chapitre 3, et au verset 1 et 12, mais je ne vais pas le lire entièrement, hein, parce qu'il est question finalement eh bien, d'une mise à part, d'un renouveau d'alliance. Et je pense que ça, c'est important de le savoir, que Dieu n'a jamais renoncé, finalement, à accompagner son peuple. Où il nous est dit dans ce passage d'Ézéchiel 3, eh bien, que Dieu est toujours le Dieu de la vie, qui ramène à la vie, et qui nous fait échapper de la mort. Alors je répandrai, nous dit Dieu, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et un esprit de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est pas les nations seulement qui ont percé Jésus à la croix du calvaire, parce que, hein, un, deux, les pieds et le côté. Sans le savoir, sans vouloir le reconnaître, ils étaient en train de tuer leur rédempteur et leur à la croix de Golgotha, naturellement. Ils pleureront sur lui, il y aura un autre message derrière ça, ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem, à la croix de Golgotha? C'est les Juifs, associés aux nations, pour dire, eh bien, il faut tuer cet homme. Il faut le tuer, parce que non seulement il est dérangeant, mais il est en train de bouleverser finalement, eh bien, les plans iniques de l'humanité. Alors il y a un réveil de conscience à ce moment-là, un réveil. Après le réveil politique, il y a un réveil spirituel. 1948, peut-être que pour certains, vous dites, ben 1948, c'est la fin de la guerre, hein. On commence déjà titubant à remettre les nations un petit peu en place, parce que c'est véritablement la guerre a détruit tout, hein. Et c'est vrai, quand on regarde les images des années 45, 50 et 55, après on a eu la belle époque, hein, façon de parler, hein, les 30 glorieuses. Mais il y a un réveil spirituel qui se prépare. Et il se prépare précisément avec les événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais étape par étape. Et allez discerner si c'est le moment ou pas. Jésus nous dit, quand viendra le jour? Eh bien, Jésus nous répond, on ne sait ni le jour ni l'heure. Et ça se prépare. On est en train de préparer le monde. 1948, c'est la résurrection politique où les Juifs vont, après des d'âpres combats, une fois que le protectorat britannique, parce qu'ils étaient sous protectorat britannique, va partir, parce que ça devenait une situation intenable, alors à ce moment-là, il va y avoir la déclaration comme nation. Israël va rentrer dans le concert des nations. Et comment un petit pays grand comme la Bretagne est en train de tenir la dragée haute au monde entier? Si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est grand comme la Bretagne, vous rendez compte? Il y a quand même quelque chose de spirituel derrière. Il y a quand même quelque chose qui montre... Eh bien, c'est la petite pierre de la statue, pour ceux qui connaissent, de la statue de Nebuchadnezzar, qui, une petite pierre, va casser tout l'édifice. Et ça vient. Et ça vient. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine viendra sur l'humanité. Quant à Munich, en 1938, les nations menacées par le nazisme ont fait un accord. Tous les plénipotentiaires de l'époque qui ont signé un traité avec Hitler, eh bien tout le monde disait, dans le monde entier, sur les pages premières des journaux, eh bien voilà, nous sommes arrivés maintenant à un temps de paix. Alors je peux vous dire, quelques mois après, c'était la déclaration de la guerre. C'est pour ça qu'on va entendre des choses. Ah, on fait des compromis, on fait des trêves, on fait on peut faire beaucoup de choses, et c'est ce qu'on entend. Et au moment où on va penser que c'est bon, que la terre va rentrer maintenant dans la paix, une paix définitive, c'est là où ça va exploser. Et on a les moyens de faire tout exploser. Hein. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais il faut être du bon côté. Oui, il faut être du côté de Dieu. Parce que ceux qui sont du côté de Dieu seront sauvés. Et nous éviterons les tribulations qui sont dans les 7 années où ça va être le règne de l'Antéchrist. N'ayez pas peur, nous les chrétiens. Soyez fidèles au Seigneur, gardez sa parole en toute simplicité dans votre cœur. Parce que Jésus, quelque part, si vous connaissez un petit peu la première venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus qu'on appelle la parousie, et ça sera c'est parce que j'ai fait 3 études autour de tout ça, eh bien, nous voyons que nous serons protégés. Maintenant, le monde qui ne veut pas de Dieu, ben, il va vivre ce qu'on appelle la longue, parce que ça dure depuis 2000 ans, ou la grande tribulation. Et là, à ce moment, ça sera autre chose. Hein. Et je ne vous en parle pas tout de suite, parce que ça viendra. On aura l'occasion. Donc, nous avons déjà une première approche, et là, maintenant, ce n'est plus tellement l'Ancien Testament, ça va être le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, au chapitre 3, il est dit ceci... Et c'est Pierre qui dit ça, après la Pentecôte, après la crucifixion de Jésus, donc la Pentecôte, C'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui dira à Jérusalem, devant les foules qui sont réunies, « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Vous avez dit, c'est Jésus. « Que Dieu a ressuscité des morts. » Et nous voyons qu'il y aura, en effet, la réjection d'Israël pour un temps, parce qu'ils ont crucifié le Messie que Dieu leur avait donné, ils n'en ont pas voulu. Et ils ont dit « Crucifie, crucifie-le ». C'est ce qui s'est passé. Et là, il y a un temps de réjection de Dieu. Et nous voyons que c'est là le début de ce vent nauséabond, de ce vent diabolique, de ce vent ténébreux que l'on appelle l'antisémitisme. Et il a toujours existé. Lorsque les musulmans sont arrivés dans le sud de l'Espagne, on les a massacrés à un moment donné, hein, les rois d'Espagne. Et puis à chaque fois qu'il y a eu couleur juive quelque part, eh bien, véritablement, on a fait des pogroms, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza, et on les a mis dans des camps et on les a marginalisés, hein, pour les persécuter, jusqu'à les mettre dans les fours à un moment donné. La haine d'Israël. Je vais un peu plus loin. La grande révélation du Nouveau Testament, naissance de Jésus, où il est question de renaissance, à un moment donné, qui vaut pour Israël, renaissance pour Israël, renaissance aussi pour nous, parce que là, le salut, il passe par là, et reconnaissance. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reconnu Jésus. On n'a pas reconnu le Messie, puisque nous ne sommes pas juifs. Mais peu importe, c'est la même chose, hein, si vous voulez. Et ensuite, on est arrivé à la reconnaissance. Et les Juifs, bientôt, vont reconnaître leur Messie qu'ils ont crucifié, qu'ils ont percé et qu'ils ont éliminé. Dans Romains, chapitre 11, je lis le texte simplement. Hein. C'est versets 2, 5, 25, 12. « Dieu n'a pas rejeté son peuple, nous dit l'apôtre Paul. Il n'a pas rejeté son peuple, et on pourrait dire, mais Dieu l'a toujours châtié, condamné, etc. » Vous savez, les épreuves, hein, elles sont faites non pas pour nous détruire, mais elles sont faites pour nous amener, eh bien, à la grâce de Dieu. Et Dieu ne fait pas mourir son peuple. C'est une instruction. Quand il nous a appelés pour toujours. Le fils prodigue, il ne s'est pas fait boxer quand il est arrivé à la maison de son père. Son père l'a pris dans les bras et lui a dit « Rentre à la maison, nous allons faire la fête. » Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dans les temps présents, il y a un reste, c'est maintenant les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce et tout Israël sera sauvé. Enfin, ceux qui croient dans le Messie, hein, parce que les autres, il y a des juifs qui sont laïcs, hein. Faut bien le dire. Mais bon, tous ceux qui ont reconnu, on les appelle les juifs messianiques. Vous avez entendu parler peut-être, hein, les juifs messianiques. Il y a un reste selon l'élection de la grâce et tout Israël sera sauvé. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera Jacob des impiétés et il nous est donné cette belle promesse où Dieu dit et affirme pour Israël comme pour le fils prodigue, comme pour nous, « J'ôterai leurs péchés et ils se convertiront tous. » Il va y avoir des temps où nous allons voir qu'il va y avoir un tournant. Vous savez que la nation d'Israël actuellement, c'est extrêmement religieux, mais c'est une démocratie laïque. Hein. Attention, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est laïque. Et pourtant, quand vous allez en Israël, ah ben, les dedans, vous en entendez parler, hein, de Dieu, hein. Ça c'est certain, mais bon, il y a un équilibre qui est plus ou moins heureux, hein, parce que quand on voit aujourd'hui que c'est le parti d'extrême droite, des orthodoxes juifs qui ont pris un petit peu le pouvoir pour faire la guerre au Hamas, et puis il y en a des deux côtés, hein, il y a des extrémistes musulmans et des extrémistes islamiques, pardon, et des extrémistes juifs. Hein. Moi, il m'est arrivé avec Myriam de passer une matinée à Meah Shearim. C'est le quartier le plus dur en Israël. C'est à Jérusalem. Ce sont des extrêmes. Et ça fait un drôle d'effet parce que moi, on avait un jeune pasteur qui faisait ses études là-bas, qui nous a dit « Faites attention, hein. pas de femme en pantalon, avec des robes, avec un foulard, etc. Ben, Myriam, elle n'était pas très à l'aise. Hein. Je peux vous dire. Elle se dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais les gens nous regardent, ils ne travaillent pas, ils ne font pas le service militaire. Ils sont aussi extrêmes que de l'autre côté, dans l'islam. Et on est sortis, on était quand même contents d'être sortis. Et on a vu ce que c'était. C'est la misère dans ces milieux-là. Et ils ne passent leur temps qu'à étudier la Bible. Vous savez, c'est eux qui ont des gros chapeaux en tambour de machine à laver, là. Excusez-moi. Mais avec les papillotes, etc., etc. Allez en Israël, vous verrez. Mais il ne faut pas y aller maintenant. Hein. Dans Romains, chapitre 1, verset 16, « L'Évangile, nous dit l'apôtre Paul, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors écoutez, le juif premièrement, pourtant ils sont à la traîne hein, en ce moment, hein. Puis du grec, et qu'en lui est réservée la justice de Dieu, pas par la loi, et ça c'est vraiment le point de la pierre d'achoppement, où beaucoup, non pas par la loi, mais par la foi. Et là, ça change de régime. L'Ancien Testament, c'est la loi. Tu feras ceci, tu feras cela, etc., etc. Mais la foi, c'est la loi de l'amour. Je le fais parce que j'aime et je ne le fais pas par devoir. Il y a Moïse, la loi, et il y a Jésus, la foi. Pour essayer de faire un petit peu la jonction, hein, tout simplement. Je viens de finir. Alors le fils prodigue revient à la maison. C'est pour ça que la lecture des événements d'aujourd'hui, il faut les voir avec dans un autre prisme. Ouais. Il revient à la maison. Ce fils qui est indocile, ce fils qui est rebelle, ça c'est le judaïsme. Judaïsme dont les racines sont Moïse, tout simplement. Et la loi, c'est une chose. La foi, c'est véritablement le message d'amour de Dieu, du christianisme, la foi. Alors maintenant, la question qui se pose, si vous êtes curieux, je ne vous donnerai peut-être pas tout à fait parfaitement la réponse, parce que je ne la connais pas moi-même. En quel temps Israël reconnaîtra son Messie? En quel temps? Parce que pour l'instant, depuis les temps où Jésus a marché sur la terre, qu'il a vécu parmi son peuple, sur la terre des hommes, au moment où il est monté au ciel, et jusqu'à maintenant ça fait 2000 ans, enfin, en gros, hein, on ne va pas naturellement. Et on pourrait se dire, mais quand est-ce que ça va se produire? Quand est-ce que tu reviens, Jésus? Et c'est bien les questions qui ont été posées aux disciples dans Luc et dans Matthieu. En quel temps viendra ces événements, l'avènement de ton royaume? Jésus a répondu, il y aura des signes précurseurs, il y a ceci, il y a cela, etc. etc. Mais attention, hein, il ne faut pas interpréter les choses. Quand ils sont faits, quand ils sont accomplis, ou quand ils sont en cours d'accomplissement, on peut dire, tiens, il y a certainement un signal, il y a quelque chose de particulier. Levons nos têtes et regardons non plus vers la terre, mais regardons vers... Et il y en a eu des signes, hein, tremblements de terre, des guerres, bruits de guerre, des toutes sortes de farfelus qui viendront avec des faux prophètes, enfin toutes sortes de choses, hein, naturellement. Mais attendez, il ne faut pas tirer la conclusion comme ça. Ce n'est pas tout à fait de cette vue-là qu'il faut voir. Alors, en quel temps? Jésus s'appelle Yeshua, en hébreu. Yeshua, ouais, sauveur, Jésus-Christ. Et il viendra un moment dont nous ne serons plus les spectateurs parce que nous serons déjà au ciel. Premier enlèvement, il nous est dit que Jésus viendra d'une manière invisible, oui, sur les nuées du ciel. Et nous serons, parce que nous aurons été fidèles à Jésus, et nous serons transformés, nous revêtrons l'incorruptibilité, l'immortalité, et nous serons emportés avec lui. Amen. Et viendra une autre période, deuxième période de cette, où on appelle ça la parousie, ouais. La révélation. Et c'est Jésus qui va revenir avec ses saints, il reviendra avec l'Église, parce que pas confiant Israël avec l'Église, c'est deux identités différentes, nous sommes ensemble, nous sommes frères de la même famille, du même Père, sauvés par le même Seigneur, mais on ne confond pas. Moi, quand je corrige les copies des examens des futurs pasteurs, hein, eh bien, là, il la chope. Hein, on réunit tous les deux ensemble. Israël, c'est l'Église et l'Église, c'est Israël. C'est faux. Parce qu'il va y avoir deux destinées. C'est ce que je suis en train de vous dire ce matin, quelque part, mais dans un même but. C'est le salut, quoi qu'il en soit. Alors, c'est important de savoir tout ça. Et on appelle ça la parousie, la venue sur le monde des... Ouais. Avec la porte d'or qui est en bas de Jérusalem, le mont des Oliviers est ici, puis c'est après c'est l'entrée de l'ancienne ville. Elle a été fermée depuis 2000 ans, cette porte. La dernière fois, c'est Jésus qui y est passé. Et elle sera réouverte au moment de cette parousie, au moment où elle va... Il va apparaître sur le mont des Oliviers, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, et ça sera une révélation universelle. Autant lorsque nous, l'Église, nous serons enlevés avec, nous dit Paul, nous serons enlevés avec Jésus dans les nuées, pour régner avec lui, parce que pour nous, ça sera fini, hein, on sera déjà dans d'autres dimensions. Mais la deuxième fois, tout œil, il nous est dit, tout œil le verra. Alors je ne sais pas comment, mais on le verra. Tout simplement. Dernière et ultime offensive des nations contre Israël. Parce que ça n'était que ça. Hein. Il faut se dire qu'ils en ont usé hein, des canons, des fusils, des épées, le sang qui a coulé. Hein, parce qu'il faut dire que la terre d'Israël, cette région du monde, elle n'est pas arrosée seulement avec la pluie du ciel, elle est arrosée avec le sang. C'est comme Verdun, ça. Hein. C'est pareil, hein, dans les grandes guerres et dans les choses comme ça. Oui, mais... Le sang a coulé une fois sur la croix du calvaire. Il a été rédempteur. Et alors, ultime offensive contre Israël. Un nom dont on a fait tellement de films catastrophiques. Armageddon. Alors, croyez pas que c'est de la science-fiction du cinéma. Non, c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été tirés de l'inspiration de la Bible, hein. Films historiques, etc., les peplums et tout ça. Moi, je ne les regarde jamais parce que je me dis que c'est tout à fait à côté, de toute manière. Parce que si on prend finalement ce qui nous est dit et si on veut s'en tenir à cela, ben, ça n'a rien à voir, hein. C'est du cinéma, c'est tout. La bataille d'Armageddon, ça sera une grande confusion pour les nations qui ont été vaincues, tout simplement, dans cette plaine qu'on appelle la plaine de Jisréel, entre... finalement Gaza, où on en parle, et puis le nord d'Israël, c'est-à-dire les monts du Liban, et puis le Liban, voilà, et puis la Syrie d'un autre côté. Voilà. Et ils se battront. Toutes les nations viendront cette fois-ci en disant, eh bien maintenant, ça y est, on les tient, on va les faire disparaître, et on a gagné. Et c'est là justement qu'il va y avoir quelque chose qui va être terrible, parce que c'est Dieu qui va descendre. C'est Dieu qui va mettre la paix chez les hommes. Ça sera l'effondrement de Babel. Comprenez ? Qu'est-ce qui reste de Babel ? Rien du tout. Eh bien, ça, c'est les constructions. Ce sont les cogitations de l'esprit humain qui ne peut pas faire les choses dans l'amour, mais qui n'est fait qu'avec haine. Terrible. Terrible. Et à ce moment-là, petit noyau, petite puce, au milieu de ces vastes nations, Israël, petite puce, rien du tout. Hein ? C'est la petite pierre. Il nous est simplement rappelé que Dieu va sauver surnaturellement eh bien, le peuple d'Israël. Et là, tout va rentrer dans l'ordre. Et Israël eh bien, sera emmené avec son Messie. Écoutez, Zacharie 14. « Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Vis-à-vis de Jérusalem, la montagne se fendra par le milieu. » Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, apparaîtra, Yeshua, Jésus, et tous ses saints avec lui. On est compte ? Qu'est-ce que ça pourra être ? Alors n'imaginons pas, mais laissons-nous tout simplement, eh bien, avec ces quelques informations, elles sont vraiment toutes simples. Et la conclusion de tout cela, eh bien, c'est que c'est une si longue histoire. La Bible est un vieux livre. Pour certains, il est poussiéreux. On ne le sort jamais des étagères. Parce que ça n'a pas d'intérêt, bien sûr, hein, naturellement. C'est comme Harry Potter. Hein. pour certains. Oui, il y a toutes sortes de choses bizarres, la sorcellerie, toutes sortes de choses. Non, non, c'est pas un livre de sorciers, hein. C'est la parole de Dieu. Alors, Zacharie nous dit une dernière fois, pour le peuple d'Israël, leur regard, parce que ce sera, sur le monde de l'Église, ça sera visible pour tous, hein, se tourneront vers celui qu'ils ont percé, et ils pleureront. Et à ce moment-là, il y aura l'Esprit de Dieu, comme à la Pentecôte pour nous, l'Esprit de Dieu, il va répandre la repentance, un esprit de repentance, et ils reconnaîtront en vérité leur Messie, Sauveur, Messie pour Israël et Sauveur pour le monde entier. Il rentrera une nouvelle disposition que l'on appelle les temps messianiques. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, écoutez, je veux simplement vous le dire dans Ésaïe, parce que ce sera les temps où il n'y aura que du repos, que de la paix, que de l'amour. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. C'est un très très beau passage. 1 à 5. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Naissance de David et ensuite naissance de Christ. Un rejeton renaîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, c'est ce que nous découvrons à travers Jésus, Jésus Messie, dans l'Évangile, dans les quatre évangiles. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, pas la peur, mais la crainte, le respect, l'adoration. Il ne jugera point sur l'apparence, donc c'est l'intégrité de cœur. Il ne se prononcera point sur un souffle, mais il jugera les pauvres avec équité, c'est ce qu'on a vu. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc la justice, hein. La justice sera la ceinture à ses flancs, et la fidélité la ceinture à ses reins. Et si vous voulez lire la suite, c'est très intéressant. Le lion paîtra avec le lion avec l'agneau. Et puis la vipère ne mordra pas. Il n'y aura pas de dommage sur cette terre-là. Ça sera véritablement ce qui a été raté dans le jardin d'Éden, ça sera la réponse et la réalisation divine de Dieu dans ces circonstances. Ça sera le règne de Dieu sur la terre avec Israël, les chrétiens convertis autour et avec le Messie, donc Jésus, tout simplement Yeshua. Naissance, Messie, Christ, c'est Noël. Renaissance, le Fils prodigue, qui va naître de nouveau et qui revient à la maison du Père, c'est Israël aussi, qui va se repentir. Ils pleureront sur celui qu'ils reconnaîtront, sur celui qu'ils verront pour l'avoir, eh bien, éliminé ou tué. Et puis, ce sera la reconnaissance du monde entier. Eh bien, le défi sera relevé depuis le jardin d'Éden, où les hommes sont sortis finalement et où le chemin de retour vers Dieu a été barré. Mais heureusement, Dieu a donné un Messie pour Israël et il a donné un Sauveur pour tous les hommes qui se repentent de leurs péchés, qui se convertissent en croyant que celui qui nous a été donné, eh bien, nous ne serons jamais déçus ni confus. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour Noël. C'est une fête humaine, c'est vrai, une fête de famille. C'est une fête qui nous réjouit parce qu'il y a beaucoup de lumière dans un monde qui est si noir. Mais nous voulons véritablement penser à un autre acteur de cette histoire dont nous-mêmes, nous sommes les bénéficiaires, nous sommes les héritiers. Parce que Dieu, en effet, a choisi un peuple, il l'a mis de côté, il l'a élu. Et à travers ce cheminement terrible, ce cheminement, Seigneur, fait de pleurs, mais fait aussi de bénédictions, eh bien, c'est en Jésus-Christ que nous avons aussi notre part de bénédiction. Et nous te louons et nous te bénissons. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous le dire nous-mêmes. Qu'est-ce que nous serions devenus si nous ne connaissions pas aujourd'hui Jésus ? Alors merci, Seigneur, parce que le plus beau de tous les cadeaux, que ce soit Noël ou pas, c'est véritablement que tu as pu ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles pour que nous entendions, ouvrir nos cœurs pour que nous croyions. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Et merci pour le peuple d'Israël, parce que nous en connaissons le destin. Merci pour le peuple de l'Église, qui est aussi parfois indocile, qui est quelquefois rebelle. Oui, Seigneur, déviante. Mais une chose qui est certaine, c'est que si véritablement notre cœur est en Jésus, alors tu nous as donné ton esprit pour que véritablement nous te restions fidèles dans l'amour et dans ta grâce. Amen.
Amen.